Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 13 février 1992.
Je reviens un instant sur ce qu'on disait hier, à la fin du cours. J'aurais voulu le dire tout de suite, et puis je me suis dit, on va pas prolonger. C'était la question posée à propos de l'être en acte et de l'essai. On est là à un sommet de l'Himalaya. C'est pas étonnant que c'est pas commode. Je vois très bien la question. C'est que saint Thomas, dans son commentaire du De Hebdomadibus de Boèce, un petit commentaire, je ne crois pas qu'il est traduit, mais qui est très intéressant. Quand saint Thomas commente Boèce, c'est toujours intéressant du reste, parce qu'il commente ce philosophe latin, un peu logique, mais quand même intéressant. Dans le De Hebdomadibus, saint Thomas compare ens, esse, à blanc, blancheur. Le concret et l'abstrait. C'est très intéressant. Blancheur, ce par quoi blanc et blanc. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur, je n'ai l'expérience que du blanc. Le blanc seul existe. Et la blancheur existe dans la formalisation que fait l'intelligence en passant de l'abstrait au concret. C'est ce que saint Thomas appelle l'abstraction formelle. Et saint Thomas fait le parallélisme avec ens esse. Alors je comprends très bien l'objection posée hier. Donc, esse, c'est ce par quoi ens et ens. Ens, traduisez ce qui est. Ce par quoi ce qui est est. Donc, esse est principe. Comme blancheur est principe. Si essai est principe, il est donc l'être en acte. Et je l'ai grâce à une abstraction formelle qui implique une induction. Donc essai est au terme d'une induction. Je crois que c'était sous-jacent la question posée. Même si ce n'était pas exactement ça, ça rejoint ça. Et c'est vrai, ça. Si j'étudie saint Thomas, je dis en effet, saint Thomas nous dit ça. Parce que « essai » chez saint Thomas est pris dans des significations très différentes. Alors saint Thomas prend cette signification-là. Donc, ça m'intéresse au plan philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence y a-t-il? Alors maintenant, je pose au plan critique. Quelle différence y a-t-il entre essai, principe, ce par quoi ce qui est et l'être en acte? L'être en acte est fin. Principe selon la fin. Tandis que quand je prends essai sous sa forme abstraite, comme la forme abstraite de ens, de ce qui est, je suis en présence d'un principe formel. Ce par quoi, comme blancheur, et la forme de blanc, ce par quoi le blanc est blanc. Je ne suis donc pas en présence de l'être en acte fin. Je ne suis donc pas en présence du principe propre de l'être en acte fin de ce qui est. Mais je suis en présence, alors je le reconnais, dans le point de vue du langage, devant une certaine formalisation de ce qui est en tant qu'il est. Et je prends essai comme ce par quoi ens est ens. Et c'est un peu subtil, hein, mais c'est pourtant très important de comprendre la différence. Alors, le passage du concret à l'abstrait, c'est vrai, c'est une certaine induction, mais c'est l'induction dans sa forme, j'allais presque dire, la plus élémentaire et très proche du langage. Ce qui fait comprendre Platon. C'est très proche du langage. L'homme en soi. Le blanc en soi. Blanc de blanc. C'est le blanc en soi. Blancheur. Essai. C'est ce par quoi ens et ens. Vous voyez, ce n'est pas une induction au sens découverte d'un nouveau principe au niveau métaphysique. Je demeure au niveau formel. C'est une formalisation. Ah, c'est intéressant, cette formalisation, mais c'est très dangereux aussi. Parce que ça ne me fait pas avancer dans la réalité. J'abstrais ce qui, d'une certaine manière, ne peut pas être abstrait. C'est une formalisation au niveau du langage. Et la formalisation au niveau du langage est très dangereuse quand j'oublie que c'est au niveau du langage. C'est la porte ouverte au néoplatonisme. La véritable induction, c'est la découverte d'un principe propre qui reste lié à l'exister. Tandis que quand je formalise blancheur, ce n'est plus lié à l'exister. C'est la forme en soi. Vous savez, je n'ai pas l'expérience de blancheur. Et quand j'en prends essai de cette manière-là, je formalise aussi ens, ce qui, d'une certaine manière, ne peut pas être formalisé. Puisque ens comme tel, abstrait et concret, signifie la même chose. Blancheur n'a pas la même signification que blanc. Mais essai a la même signification que ens. Parce que quand il s'agit des notions transcendantales, le concret et l'abstrait ont la même signification. Ce qui montre que la formalisation est uniquement au niveau du langage. J'ai Je vais mieux vous dire ça ce matin avec vos intelligences reposées. C'est très intéressant ça, hein, pour voir la source d'une quantité d'erreurs. C'est-à-dire de s'orienter vers un néoplatonisme. Vous savez bien, il y a toute une série de thomistes qui disent que saint Thomas est plus néoplatonicien qu'aristotélicien. Et ça revient tout le temps. Il y a deux interprétations du thomisme, c'est très ancien ça. C'est très très ancien. Ce que je considère l'interprétation majeure, c'est Aristote. Mineur, le néoplatonisme. Parce qu'alors, à la place de regarder la réalité, on est au niveau du langage. Et comme saint Thomas dit lui-même qu'on ne peut pas discuter au niveau du langage, on ne va pas appliquer saint Thomas ce que saint Thomas refuse. Parce que c'est très vrai, si je prends cette formalisation, je n'ai plus laissé comme principe selon la fin, j'ai laissé comme la forme des formes. Et je peux regarder l'essai comme la forme des formes. Mais ça, ce n'est plus le sens propre, métaphysique de l'essai. Essai actus essendi. Mais saint Thomas dit aussi que l'essai, c'est la forme des formes. Comme c'est difficile d'interpréter saint Thomas à ce sommet. J'ai fait l'enquête en tout, j'ai lu tout saint Thomas sur le point de vue l'essai. Parce que je voulais en avoir le cœur net. C'est intéressant à faire, une petite enquête. C'est intéressant de voir toutes les significations que saint Thomas prend de l'essai. Il y en a cinq. Alors évidemment, on peut faire une mayonnaise de premier ordre. Et cependant, chaque fois, si on est attentif, saint Thomas précise. Je peux employer l'essai sous des formes différentes. Je peux l'employer sous cette forme-là. L'essai, forme abstraite de ens. Ce par quoi ens est ens. Pourquoi ? Parce que c'est la forme infinitive. Et l'infinitif peut être pris formellement, substantiellement, formellement. Mais ce n'est plus le sens métaphysique de l'essai. Le sens métaphysique de l'essai, actus essendi, c'est l'acte de ce qui subsiste, de ce qui est capable d'exister. Alors à ce moment-là, l'essai est fin. Donc, faisons toujours grande attention et ne demeurons pas au niveau de la signification des mots. Dépassons la signification des mots pour rejoindre le jugement d'existence, pour rejoindre la réalité. La philosophie se fait au niveau de la réalité et non pas au niveau des mots. Très vite, je glisse vers une logique. Alors, c'est très bien, faites vous-même, et je crois que c'est une manière très élégante d'entrer en métaphysique, faites vous-même cette petite enquête dans saint Thomas. C'est très intéressant, parce que c'est une manière de commettre saint Thomas par le sommet. Ens esse dans saint Thomas. Je regarde maintenant tout de suite la seconde modalité de l'acte. Alors, là aussi, petite remarque avant d'avancer. Vous comprenez, le mot modalité a lui aussi des significations très très différente au niveau même où j'emploie. Quand je dis mode de l'être en acte, je demeure dans un mode que l'intelligence seule peut saisir. La grosse distinction à laquelle il faut tout le temps revenir, c'est la distinction du TST et du POS. Distinction qui tend à disparaître dans la scolastique décadente. Distinction que je dois saisir chez Aristote et non pas chez saint Thomas. Pourquoi ? Parce que saint Thomas nous dit que la théologie, c'est la théologie du comment. Je ne peux pas savoir ce qu'est Dieu. Le TST de Dieu m'échappe complètement. La seule chose que je connais, c'est le commodo, c'est-à-dire le pose, le comment. Donc toute la théologie est une science du comment de Dieu. Cependant, saint Thomas n'hésite pas de se poser la question : qu'est-ce que c'est que la grâce ? Qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est plus fort que lui, tu vois. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Or, il sait très bien que je ne peux pas savoir ce qu'est la grâce. Si je savais ce que c'était que la grâce, je connaîtrais Dieu. Ce que Catherine de Sienne dit. Si je voyais une âme en état de grâce, je verrais la très sainte Trinité. Ce qui est vrai. Participation formelle à la nature de Dieu. Et donc si je connaissais ce que c'était que la grâce, je connaîtrais Dieu. Donc en réalité, je ne connais pas le quid. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? Mais comment la grâce existe en moi ? Comment peut-elle exister en moi ? Alors, c'est le TST du commodo. Et j'ai parfaitement le droit de chercher ce qu'est, ce comment. C'est très très intéressant, du reste, ça c'est toute la souplesse du langage de saint Thomas. Et en même temps la précision. Voyez, Auguste Comte, pour bien montrer que ces distinctions-là sont toujours actuel. Auguste Comte, le vénérable, hein, Auguste Comte dit que la question des pourquoi, c'est-à-dire du tiesti, et la question du comment, c'est-à-dire du pos, distinction capitale. Le pourquoi, c'est les enfants. Quand vous restez dans l'interrogation du pourquoi, vous restez à l'âge infantile. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous devenez comme des petits enfants. Je ne sais pas ce qu'a fait Auguste Comte. On a dû agrandir la porte. Parce qu'il ne veut pas. La question du tiesti, c'est les enfants. Il faut laisser tomber ça. Et le positiviste, c'est la question du comment. Et les sciences modernes, c'est la question du comment. C'est la seule chose qu'on regarde. En psychologie, c'est la question du comment. Tout le temps. C'est pas le TST. C'est intéressant, vous voyez, de voir la laïcisation de la théologie aboutit à voir qu'il n'y a plus que le comment. Alors, on doit être très attentif à ça. En philosophie, je recherche le TST, le pourquoi. Dès que je suis en théologie, je sais que le TST de Dieu, je ne le connais pas. Donc je Alors, comme saint Thomas est théologien, la distinction du tiesti et du comment n'est plus la même dans saint Thomas que dans Aristote. Il faut faire attention. Puisque saint Thomas est un théologien, il le dit expressément au début de la théologie. Le théologien cherche le commodo non sit de Dieu, et non pas le tiesti. Oui, laïciser, du moins, chercher dans saint Thomas une philosophie, laïciser la pensée du théologien, c'est que la distinction du tiesti et du pose disparaît. Et c'est ce qu'on voit en scolastique décadente. D'où la confusion. Et c'est pour ça qu'on doit reprendre toujours la distinction du tiesti et du comment. Alors comprenons que le comment, c'est-à-dire la manière d'exister, d'être, la manière d'être, se prend à des modalités, se prend à des niveaux très différents. Le comment, c'est un mode. Quand je parle des modes de l'acte, l'acte, c'est un tiesti, puisque c'est une fin. Et quand je parle des modes de l'acte, je reste encore au niveau de la fin. C'est sûr. Donc, c'est un mode très, très particulier, analogique, à l'intérieur de la ratio actus. Je saisis tel mode de cette ratio actus. Mais ça ne peut se comprendre qu'au niveau analogique. Et c'est, je crois, ça aussi qui fait pour nous des difficultés. C'est que quand je parle de mode de l'acte, je ne suis pas au niveau de la manière d'exister. Je demeure encore au niveau de la recherche du principe. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'un principe, je peux parler d'un mode particulier du principe? Oui, je peux. Au point de vue analogique, je peux comprendre que l'acte se donne à moi à des niveaux différents. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. L'être en acte, se prend au niveau de la substance. Quand je dis au niveau de la substance, au niveau philosophie première. L'être en acte au niveau de la philosophie première. Le problème de l'essai. L'être en acte se prend au niveau de l'esprit. La vie de l'esprit. C'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le problème de la vérité et le problème de la bonté. Le problème de l'être en acte peut se prendre au niveau des opérations vitales. Et peut se prendre au niveau physique. J'ai donc à regarder le problème de l'être en acte à 5 niveaux différents. 1, 2, qui impliquent 2 et 3, intelligence et volonté, 4 et 5. Mais quand j'ai découvert l'être en acte et l'être en puissance, c'est une grande lumière qui éclaire tout le problème de l'esprit, tout le problème de la vie, tout le problème physique. Toute la philosophie et comme reprise dans la lumière des finalités. Alors, nous avons essayé de comprendre comment l'être en acte au niveau de la substance, c'est le problème de l'essai. Regardons maintenant le problème de l'être en acte au niveau de l'esprit, de mon esprit, de mon âme spirituelle, c'est-à-dire au niveau de mon intelligence et au niveau de ma volonté. Au niveau de l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'être en acte? L'être en acte, c'est la fin de ce qui est. Restez toujours dans cette lumière-là. Quelle est la fin de l'esprit? Qu'est-ce qui finalise ma vie intellectuelle? Quelle est la fin de mon esprit? C'est la vérité. Mon intelligence n'est parfaite. Parfaitement elle-même que quand elle atteint la vérité. La vérité, c'est la fin de mon esprit comme esprit. Et alors se pose ici tout de suite ce problème. C'est que mon intelligence atteint la vérité en ce sens que mon opération intellectuelle parfaite, c'est le jugement. Mon jugement parfait, c'est le jugement qui atteint la vérité. C'est un jugement vrai. Et l'intelligence n'atteint la vérité comme intelligence que lorsqu'elle est conforme à la réalité existante. La fameuse expression sur la vérité que saint Thomas prend dans le De Veritate, question première, article premier. L'intelligence est vraie quand elle est adéquate au réel. La vérité étant l'adéquation de l'intelligence au réel. Alors voyez cette chose très curieuse et très intéressante. C'est qu'on ne peut parler de vérité au sens premier, au sens le plus absolu, que lorsque je suis en présence de la réalité existante. Donc, le premier sens de l'être en acte, c'est mon intelligence qui s'affronte à la réalité existante et qui, s'affrontant à la réalité existante, saisit cette réalité comme elle est. À ce moment-là, elle peut dire « ce que je dis est vrai puisque c'est conforme à la réalité existante ». Vous voyez donc que l'exister est présent dans cette seconde manière de regarder la vérité, de regarder l'être en acte, de regarder la vérité. Et je vois que tout de suite, la vérité se prend de deux manières différentes. La vérité, en tant qu'elle qualifie mon intelligence, une opération intellectuelle parfaite, elle est vraie. Ce que je vous dis est vrai. Parce que c'est conforme à la réalité. existante qui est mesure de mon intelligence en tant qu'elle est vraie. Je peux donc regarder la vérité dans sa mesure et regarder la vérité dans ce qu'elle a de formel. À l'intérieur de l'intelligence et en tant qu'elle est mesurée par le réel. Dès que j'étudie ce que c'est que le vrai au niveau philosophie première, et je vois que tout de suite le problème de la vérité est un problème propre à l'esprit. À l'esprit qui s'affronte au réel et qui veut atteindre le réel tel qu'il est dans ce qu'il a de plus lui-même tel qu'il est. J'ai donc la vérité en tant qu'elle qualifie l'intelligence et la vérité en tant qu'elle mesure l'intelligence et d'une manière habituelle, saint Thomas distinguera le vrai qui est la réalité existante intellectuelle, sortir de la caverne pour revenir dans la caverne. Mais à ce moment-là, il dit à tous ceux qui sont dans la caverne, vous ne voyez que les apparences. Et tous ceux de la caverne sont furieux qu'on leur dit, vous ne voyez que les apparences. Et c'est pour ça qu'Israël tue ses prophètes. Parce que l'humanité n'aime pas qu'on lui dise qu'elle reste dans les apparences et qu'elle ne saisit pas la vérité. Or, le philosophe, quand il est sorti de la caverne, s'aperçoit justement que les hommes ne saisissent que les apparences et ne saisissent pas la vérité. À partir de là, Heidegger dit qu'on est en présence de deux conceptions de la vérité. La conception de la vérité ancienne qui consiste à regarder aletheia, le dévoilement de la réalité. La vérité, c'est le dévoilement de la réalité. Et puis la vérité en tant qu'elle est propriété, qualité de l'intelligence. Conception aristotélicienne. Mais la vraie conception de la vérité, c'est de regarder la vérité dans ce qu'elle a d'absolu, la réalité existante. Alors vous voyez que quand Heidegger dit ça, il projette sur les anciens une conception moderne. Parce qu'Aristote a toujours reconnu que le vrai c'est la réalité en tant qu'elle est capable de déterminer mon intelligence, de spécifier mon intelligence. La réalité est mesure de mon intelligence. Et mon intelligence n'est vraie que quand elle s'affronte à la réalité. Aristote a toujours dit ça. Donc Aristote a toujours considéré qu'il y avait deux modalités de la vérité. Une énonciation, un jugement vrai et la réalité vraie. Et saint Thomas a repris cela. En regardant la notion de vrai en tant qu'elle est un transcendantal et la vérité du jugement qui n'est plus un transcendantal, qui est tout simplement une qualité de l'esprit. Donc quand Heidegger dit que c'est à partir de là qu'il y a une division par rapport à la vérité, non, c'est pas juste. De fait, Aristote a toujours regardé qu'il y avait ces deux aspects de la vérité. Et l'un était premier et l'autre second. La vérité de l'intelligence est seconde, comparativement à la vérité qui est dans la réalité, qui est la réalité en tant qu'elle existe. Et qui a cette qualité particulière de pouvoir spécifier, déterminer mon intelligence. Et saint Thomas, explicitement, regarde ces deux modalités de la vérité. Dans le De Veritate, quand il regarde les transcendentaux, il regarde que le vrai est un transcendantal. et par là de répondre à Heidegger en reconnaissant que la vérité se situe à deux niveaux différents. Le vrai ontologique, transcendantal, et le vrai qui qualifie mon intelligence. Mon intelligence n'est parfaite que quand elle est vraie. C'est-à-dire quand elle est adéquate à la réalité. Et vous voyez à ce moment-là que la vérité, qui est l'adéquation de l'intelligence à la réalité, ne peut exister qu'au niveau métaphysique. En mathématiques, on a un autre type de vérité. Dans les sciences modernes, on a un autre type de vérité. Dans la philosophie pratique, éthique, on a un autre type de vérité. Autrement dit, le vrai est une notion analogique qui se trouve réalisée selon des modalités très différentes. Et ça, c'est capital de comprendre cela. Nous mentions la vérité et nous ne possédons pas la vérité. Pourquoi ? Parce que je ne suis vrai que quand je suis conforme à la réalité. Et la réalité, je ne la saisis jamais parfaitement. La réalité la plus parfaite à laquelle je me conforme, c'est l'homme existant, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Jean, c'est l'homme. Et je pourrais aller plus loin en disant la vérité, c'est d'être conforme à celui qui se dit l'homme. Parfait. Seul Jésus se dit l'homme parfait. Et le philosophe doit le reconnaître. Même s'il n'est pas chrétien, il y a un homme qui s'est dit comme ça. Évidemment, il y en a d'autres aussi. Il y a Jean-Jacques. Regardez-moi, je suis l'homme. Mais on peut montrer que Jean-Jacques n'est pas l'homme. Tandis que, quand il s'agit de Jésus, c'est plus difficile, philosophiquement parlant. Mais c'est très beau de regarder que je ne suis dans la vérité que quand je dis quelque chose de vrai de l'homme. Puisque la réalité existante, la plus parfaite que j'expérimente, c'est l'homme. Et donc l'homme existant et mesure de la vérité, mais non pas l'homme dans sa pensée. Ce n'est pas ce que je pense qui est mesure de la vérité, mais c'est ce que je suis qui est mesure de la vérité pour le philosophe. Il y a quelque chose de juste quand on dit que l'homme est mesure de la vérité. Et il y a quelque chose de faux. Si je dis que c'est ce que je pense qui est la mesure de la vérité, c'est faux. Si je dis que l'homme qui existe en moi est mesure de la vérité philosophique, c'est juste. Le philosophe cherche ce qu'est l'homme. Et s'il cherche ce qu'est Dieu, c'est pour connaître ce qu'est l'homme en tant que philosophe. Parce qu'il ne connaîtra parfaitement l'homme que s'il va jusqu'à la connaissance de l'être premier, celui qu'on appelle Dieu. Donc voyez, là, on touche un problème extrêmement important. Le problème du vrai. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Au plan philosophie première. une modalité de l'être en acte. Et c'est la modalité de l'être en acte face à l'esprit, face à l'intelligence. L'intelligence est faite pour la vérité. Et l'intelligence humaine est mesurée par l'être en acte. Elle est faite pour la vérité. Alors, c'est peut-être là où vous comprendriez le mieux la distinction entre entelecheia et energeia. L'être en acte qui est le vrai ontologique, qui est la réalité vraie, capable de mesurer mon intelligence, c'est energeia. Et l'intelligence qui est vraie dans sa connaissance et dans son jugement est entelecheia. Et c'est toujours là où il faut le saisir, hein. C'est là où c'est le plus lumineux. Et je crois que ça, c'est très important, parce que quand je saisis le vrai, je saisis l'être en acte lumineux. C'est la lumière. Et ceux qui recherchent ce que c'est que la lumière doivent toujours aboutir à ça. C'est l'être en acte, la lumière. Et Heidegger était fasciné par ça, tellement fasciné qu'il a négligé l'autre. Alors qu'il aurait dû comprendre qu'il y a les deux. Et on comprend très bien pourquoi il y a les deux, parce que mon intelligence n'est jamais adéquate à l'être. Je cherche la réalité. Et la réalité, je ne l'épuise jamais. La réalité qui est l'homme, l'homme existant, je ne peux jamais l'épuiser. Et donc, je suis relatif à cette vérité, mais je ne la domine pas. Et par le fait même, pour moi, la vérité consiste à être relatif à la réalité existante. L'homme existant. Il y a là quelque chose de capital à comprendre. Alors réfléchissez-y, hein, parce que c'est très important de saisir cette seconde modalité de l'être en acte. Troisième modalité de l'être. Oui.
De ce côté-là, en plus, quand on le regarde de ce côté-là, on arrive à séparer finalement energeia d'entelecheia.
On arrive
à les séparer.
Ben non, les distinguer. Puisque je ne suis vrai dans mon intelligence que quand je suis relatif à la réalité. Je ne peux pas me séparer. C'est justement, c'est la tentation. Si je sépare mon intelligence vraie de la réalité, je ne suis plus dans la réalité. Je ne suis plus dans la vérité. Mais c'est la tentation. Oui. Et c'est contre cette tentation de l'idéalisme que Heidegger lutte. L'idéalisme va de fait séparer la vérité formelle de la réalité. Alors, Heidegger lutte contre cela, puisqu'il veut retrouver un réalisme, le réalisme de l'être. Luttant contre cela, il supprime cette vérité pour ne regarder que aletheia, la réalité qui est vérité. Et tout le propre de la philosophie sera de dévoiler aletheia, de dévoiler la vérité. Mais dévoiler la vérité sans découvrir que mon intelligence c'est mon intelligence vraie qui atteint la réalité, la vérité, qui atteint la vérité. Mais je sais à ce moment-là que ce que je saisis de l'être en acte n'est pas l'être en acte. C'est ce que je saisis de l'être en acte. Je saisis l'être en acte selon un mode intentionnel. Et l'être en acte n'est pas l'intentionnalité. Et ma saisie de l'être en acte est vraie dans l'ordre de la signification, mais pas dans la manière d'exister. Mais je comprends très bien comment il peut y avoir là une confusion, et ce sera la confusion de tout l'idéalisme, où je sépare ce que je saisis de la réalité en tant que je suis vrai et la réalité elle-même.